Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour continuer à parler du livre « Comment se faire des amis ». Et dans cet épisode, ce sera le premier qui va traiter des principes qui permettent de rallier les autres à votre point de vue. On va voir ensemble ces principes, dont le premier ce soir, qui est d'éviter les controverses. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est très important lorsque vous êtes avec une personne, que vous avez un différend ou une controverse, pourquoi il faut absolument ne jamais rentrer en confrontation avec votre interlocuteur sur ce sujet. Et aussi, on verra quelles sont les techniques pour y remédier. Parce qu'évidemment, il y a des techniques et on verra aussi pourquoi ça ne marche pas. Donc pour commencer, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis. Même si vous avez raison, même si votre interlocuteur dit quelque chose, il a tort, vous savez qu'il a tort, si vous lui dites de manière frontale qu'il a tort, son ego va s'activer et il va pas vous dire qu'il a tort. Il va rester sur cette position. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, à vous également, lorsque vous étiez peut-être plus jeune ou même dans des conversations, vous n'avez pas envie de perdre la face, donc vous restez voilà, sur votre position, vous êtes ancré au sol et non, j'ai pas tort, non, c'est toi qui n'as pas tort, c'est toi qui as tort. Non. Il faut absolument ne pas adopter cette approche. Donc pour illustrer ce principe, je vais vous parler d'une histoire qui est arrivée à l'auteur. Donc l'histoire se passe un peu après la Première Guerre mondiale et l'auteur assiste à un banquet donné à Rosmith qui est le Lindbergh de l'Empire britannique, autrement dit un pilote de chasse très chevronné. Et pendant le repas, il a un voisin à sa droite qui lui raconte une histoire et à un moment donné, il lui raconte cette citation. Il lui dit « Il est un dieu qui façonne à son gré nos destinées, quelle qu'en soit l'ébauche faite par nous. » Et le conteur prétend que cette citation vient de la Bible, mais l'auteur est sûr qu'il se trompe parce qu'elle vient de Shakespeare. Et aussi, dans l'histoire, il nous raconte que pour déployer sa supériorité et affirmer son savoir, et sans qu'on ne lui ait rien demandé, il va s'ériger en correcteur et il va faire observer à son voisin qu'il se trompe, que cette phrase ne vient pas de la Bible, mais de Shakespeare. Et bien sûr, son voisin n'en démord pas, il reste sur sa position, il dit « Quoi ? Cette phrase serait de Shakespeare ? Impossible, c'est absurde ! Je suis sûr qu'elle se trouve dans la Bible. » Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il a aussi un ami, un vieil ami à lui qui est à côté. Et cet ami, il se trouve qu'il a travaillé pendant de nombreuses années sur l'étude de Shakespeare. Et donc voilà, ce vieil ami les a écoutés. Et à un moment donné, il lui donne un coup de pied sous la table et lui annonce « Dale, vous vous trompez, ce monsieur a raison, cette parole est de la Bible. » Et une fois que le repas fut terminé, il rentra avec son ami et il s'adresse à lui, lui dit « Franck, vous saviez que c'était une citation de Shakespeare ?» Et il lui répond « Naturellement, elle se trouve dans Hamlet, acte 5, scène 2. « Mais voyez-vous, mon cher Dale, nous étions invités. Et pourquoi prouver à un homme qu'il a tort ? Est-ce là le meilleur moyen de vous rendre sympathique à ses yeux ? Il n'avait pas sollicité votre avis. Alors pourquoi entamer délibérément une discussion ? Je vous conseille dans ces cas-là de toujours éviter les querelles et les controverses. » Et de cette histoire, on observe que lorsque vous discutez avec quelqu'un d'un sujet et que vous n'êtes pas d'accord, si vous allez frontalement sur la problématique, si vous allez frontalement lui dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu as tort », déjà vous êtes dans le jugement parce que vous dites « tu » ou « vous », donc vous êtes déjà dans le jugement. Et aussi, l'être humain, il a une partie rationnelle et une partie émotionnelle. Et si on n'était que des êtres 100% rationnel, il n'y aurait aucun souci. Parce qu'on baserait tout ce qu'on dit sur des faits avérés, et il n'y aurait pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, je crois que 2 plus 2, ça fait 5. » Vous lui dites « Non, 2 plus 2, ça fait 4. » « T'es sûr ?»« Ouais, je suis sûr. » »« Ok, 2 plus 2, ça fait 4. » Ce serait aussi simple que ça. Sauf que dans la réalité, bah, ça ne se passe pas comme ça. On a notre partie émotionnelle qui s'active, on est des êtres très émotionnels. Et dans cette partie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'intérêt, il y a de la peur, il y a de l'ego. on s'intéresse à la validation des autres, on fait attention à notre statut, surtout lorsqu'on est en groupe. Et à cause de cette partie-là, et ben les conversations ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que même si vous êtes en conversation avec une personne, que cette personne vous dit « la Terre, elle est plate », et vous allez lui dire « non, non, la Terre, elle est ronde ». Non, non, je te crois pas. C'est sûr qu'elle est plate. Et imaginons qu'il vient de donner une conférence sur 200 personnes pour les convaincre que la Terre est plate et vous arrivez dans le public et vous dites « non, non, la Terre, elle est ronde ». Vous savez que vous avez raison. Mais est-ce que c'est la meilleure manière pour essayer de le convaincre ? C'est sûr que ça ne va pas marcher parce que la personne a des croyances très ancrées et là, vous bousculez ses croyances et si vous allez de manière frontale, son ego va s'activer, il va avoir plus peur de passer pour un imbécile vis-à-vis des autres personnes parce qu'il a reçu de la validation des autres. Les autres, je sais pas, dans le public par exemple, lui, ont peut-être applaudi ou ils accordent de l'intérêt à ce que va dire cette personne et tout ça, ça rentre en compte dans la discussion. C'est-à-dire que la personne, elle va pas se dire « Ok, non, t'as raison, j'arrête. » Non, ça va pas se passer comme ça. Elle va dire, elle va rentrer dans le conflit. Et lorsque vous rentrez dans un conflit, rien va se passer comme vous le souhaitez. Il va toujours y avoir deux perdants. Alors, un autre élément de réponse qui nous permet de voir pourquoi le meilleur moyen de remporter une controverse et de l'éviter, c'est le rôle de l'ego. Et lorsque vous avez une controverse, vous avez deux moyens de l'affronter. Le premier, c'est confrontationnel. Comme on vient de le voir, comme l'histoire dont je viens vous raconter, vous allez dire à la personne qu'elle a tort, vous allez rentrer dans une joute verbale, et ça va être des arguments qui vont pleuvoir à la volée, vous allez être comme dans une partie de ping-pong où vous allez vous renvoyer la balle de plus en plus fort, et la personne qui va gagner, c'est peut-être la personne qui va crier plus fort, c'est peut-être la personne qui va dire le plus d'arguments. Mais à la fin, il y aura peut-être quelqu'un qui va gagner, mais il y aura une autre personne qui va perdre. Il y a une personne qui se sentira rabaissée, une personne qui se sentira élevée, parce qu'elle aura son ego qui sera vraiment content, on va dire, d'avoir gagné cette joute verbale. Et dans l'autre cas, l'ego va pas être content. L'ego de votre adversaire, là on peut parler d'adversaire dans ce cas-là, va être rabaissé. Et je pense pas que vous voulez vous retrouver dans cette situation. Et la deuxième manière d'appréhender les choses, c'est de se montrer collaboratif. Et là, vous êtes sûr de remporter la controverse. Parce que, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une conversation où il y a une controverse, il faut qu'à la fin, les deux personnes soient sur un pied d'égalité, qu'il y ait un scénario win-win qui sort, et pour cela, il faut être à l'écoute des autres. Mais on va le voir plus en détail. Mais pour le rôle de l'ego, retenez que dans le cas où, imaginons, vous avez remporté une victoire sur votre adversaire et que vous lui prouvez qu'il a tort, si vous faites ça, vous allez lui faire sentir son infériorité et surtout, vous allez blesser son amour-propre et il va rester très furieux. Il sera blessé dans son ego et il n'en démordra pas. Il restera sur son avis. Donc c'est le cas confrontationnel et dans ce cas-là, il va y avoir de l'ego, il va y avoir cette partie émotionnelle qui va s'activer à fond pour défendre ses intérêts. Et on peut faire un parallèle avec les principes précédents dont je vous ai parlé, à savoir que tout le monde se croit supérieur aux autres, que les gens aiment lorsqu'ils se sentent importants. Et c'est vraiment cet aspect-là, l'aspect que chacun éprouve d'unicité qui se retrouve mis en danger. Et personne n'a envie de ressentir ça. Donc l'ego va s'activer. Et là, vous êtes sûr que vous allez perdre la controverse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, lorsque vous avez une controverse avec quelqu'un, pour en tirer le meilleur profit, pour sortir gagnant avec votre interlocuteur de cette joute verbale? Tout va passer par l'écoute et la bienveillance. Et comme le disait Bouddha, ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine, c'est l'amour. Et un malentendu ne peut pas être dissipé par une discussion, mais par l'écoute de l'autre et surtout en adoptant un esprit de diplomatie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez adopter une approche collaborative, c'est comme si vous vous mettez du même côté de la table que votre interlocuteur. Imaginons que vous avez une table rectangulaire. En mode confrontationnel, vous allez avoir une personne qui va être d'un côté et vous ou l'autre personne qui va être de l'autre. Et vous allez vous regarder face à face et vous allez ressentir cette confrontation qui a lieu, ne serait-ce que par votre emplacement autour de cette table. Et ouais, on n'a pas envie que ça se passe comme ça en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est que l'un des deux participants se mette du même côté de la table que l'autre personne et ensemble, ils vont essayer de comprendre les points de vue de l'autre pour voir quels sont les chemins qui les ont amenés à penser de cette manière-là et s'il y a un autre chemin qu'on peut prendre ensemble pour voir où est-ce qu'on peut aller pour trouver une solution à notre problème. Bon, une solution ou régler le différent s'il y a quelqu'un qui pense quelque chose et l'autre qui pense d'une différente manière. Et pour faire ça, bah, il faut s'intéresser à ce que pense l'autre, comprendre ses croyances. Pourquoi cette personne, elle pense que, je sais pas, cette citation, elle vient de la Bible et pas de Shakespeare. Faut lui poser des questions. Mais vraiment d'un air curieux pour que la personne comprenne que vous êtes là, non pas pour la juger, pour essayer d'avoir raison, mais surtout pour la comprendre de manière tout à fait sincère et honnête. Et je vais vous donner quelques principes que vous pouvez suivre lorsque vous avez un différend avec une personne et que vous ne voulez absolument pas qu'il se transforme en dispute. Donc vous pouvez, dans un premier temps, rester au contrôle de vos émotions. Ne cédez jamais à votre première impulsion d'être en colère, de répondre rapidement avec un ton de voix désagréable. Gardez votre calme et restez serein. Vous allez montrer à votre interlocuteur que vous êtes grounded, que vous êtes sur vos appuis, que rien ne vous déstabilise, comme si vous étiez un chêne, un arbre vraiment très stable, et que vous êtes là, vous pouvez discuter et que rien ne va vous affecter. Vous n'allez pas être émotionnel. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de commencer par écouter. Laissez votre interlocuteur parler à sa guise et surtout, écoutez-le activement. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a ses pensées. Quelles sont les croyances derrière ces affirmations. Il faut que vous creusiez pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour essayer de comprendre l'autre. Donc soyez à l'écoute. Le troisième point, c'est de rester honnête. Soyez honnête. Et surtout, si vous vous rendez compte dans votre conversation que vous avez tort sur certains points, voilà, ne faites pas votre... je vais pas dire un gros mot, mais ne faites pas votre abruti, votre imbécile. Admettez-le, c'est ok, tout le monde se trompe. Vous dites simplement ok, excuse-moi, je me suis trompé. Et surtout en faisant ça, vous allez désarmer l'attitude défensive de votre interlocuteur. Parce que lorsque vous faites ça, vous empêchez à votre interlocuteur de vous attaquer parce que vous le désarmez. Parce que vous lui dites déjà que bah, il a raison. Imaginons que je suis chez moi, je fais une soirée. Je mets un peu la musique forte et le lendemain, j'ai la voisine ou le voisin qui vient me voir, qui ouvre la porte et je sais exactement pourquoi il ou elle vient me parler. Elle va me dire que j'ai fait trop de bruit, que j'aurais dû baisser la musique. Soit je peux ouvrir la porte, donc déjà je peux avoir le sourire, ça va désamorcer un petit peu la mauvaise attitude de mon voisin ou de ma voisine. Et donc imaginons que c'est une voisine, elle va me dire bonjour. Et je peux lui couper l'herbe sous le pied en lui disant « Ah, je suis désolé, ah, je sais pourquoi vous venez me parler, c'est parce que j'ai fait beaucoup de bruit hier. Ah, je suis vraiment désolé et en plus j'imagine que ça doit vraiment être très agréable, vous devez tout entendre, les bruits sont fins et bah, j'imagine que vous avez dû travailler aujourd'hui et que vous avez dû mal dormir. Ah, je suis vraiment désolé, je ferai en sorte que ça n'arrive plus. » Bon, là, j'ai pas eu la bonne intonation, mais dans l'idée, si j'arrive à mettre à sa place à lui dire ce qu'elle ressent et que je m'excuse de ce comportement parce que j'avais pas envie de la déranger, bah je la désarme. Elle va pas pouvoir me crier dessus. Et si elle me crie dessus, c'est que voilà, c'est pas une personne c'est pas une personne très collaborative et c'est ok, il y en a, mais voilà, si la personne me crie dessus alors que j'ai énoncé, voilà, j'ai fait preuve d'empathie vis-à-vis d'elle et que je lui ai dit que je ferai attention dans le futur. Dans tous les cas, elle m'aurait crié dessus. Donc c'est ok. Mais voilà, soyez honnête. Et le quatrième principe, c'est promettez de réfléchir aux idées de vos antagonistes et de les étudier avec soin. C'est-à-dire que voilà, vous allez discuter avec la personne, vous allez poser des questions pour essayer de comprendre son point de vue. Et ensuite, essayez de vraiment porter un intérêt et de vous demander ok, pourquoi il pense ça? Est-ce que c'est pertinent? Quelles sont les failles dans son discours? Parce que c'est ça aussi l'étude. Hein. Lorsque vous posez des questions, c'est pour avoir des informations. Et aussi, retenez que lorsque vous êtes dans une conversation, la personne qui a le contrôle de la conversation, et c'est ce que dit notamment Chris Voss dans le livre « Ne jamais couper la poire en deux », c'est la personne qui pose les questions. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez des questions, vous demandez à votre interlocuteur de se justifier sur des sujets. Et lorsque quelqu'un répond à une question, il donne des informations. Donc vous, vous allez recevoir des informations et vous obtenez des informations, vous allez les traiter, les analyser et en fonction des informations que vous recevez, vous allez pouvoir orienter la conversation avec peut-être une autre question qui va être vraiment beaucoup mieux ciblée pour essayer de mieux comprendre les croyances de votre interlocuteur. Donc, poser des questions, s'intéresser à l'autre, c'est vraiment une très bonne stratégie. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit sur un ton accusatoire, mais vraiment sur un ton de curiosité, collaboratif. Il faut que la personne sente que vous êtes avec elle pour essayer de la comprendre. C'est ça le plus important. Et aussi, vous pouvez, autre principe, remercier sincèrement vos adversaires pour leur intérêt. Simplement leur dire que vous êtes content qu'ils partagent leur point de vue. Et même s'ils sont différents du vôtre, c'est OK, on est là pour discuter, pour trouver des solutions à nos problèmes. Et aussi, ce qui peut être bien dans le dernier principe, c'est de réorganiser une entrevue plus tard pour laisser aux deux parties le temps d'examiner en détail le problème. Et on connaît la citation « La nuit porte conseil ». Vous allez avoir le temps d'ingurgiter toutes les informations, toutes les questions de vos interlocuteurs et ensuite vous réorganisez une réunion. Bien sûr, si c'est possible, hein, là je parle dans un cas où je sais pas, vous êtes au travail peut-être, ou vous avez un différend avec quelqu'un qui peut être résolu sur plusieurs jours. Si ce n'est pas possible, vous ne le faites pas, c'est tout. Mais en tout cas, d'avoir cette stratégie où vous êtes vraiment à l'écoute de l'autre, vous vous intéressez vraiment à son point de vue, vous essayez de le comprendre, c'est sûr qu'en adoptant cette approche collaborative, vous allez en sortir gagnant et que toutes les deux personnes vont être contentes de cet échange. Donc pour résumer, si vous avez un malentendu avec quelqu'un, ce que je ne souhaite pas du tout, mais je pense que ça va arriver dans votre vie, n'essayez pas de dissiper cette controverse par une discussion, mais surtout soyez à l'écoute de l'autre, de votre interlocuteur. Essayez de comprendre son point de vue, posez-lui des questions. Prenez le temps de vraiment comprendre son point de vue. Vous pouvez prendre des notes. Revenez plus tard. Et surtout, ne perdez pas cette confiance. Ne le jugez pas. N'essayez pas de lui dire qu'il a tort. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est vraiment la dernière des stratégies à avoir et c'est la pire. Il faut vraiment que la personne sente que vous êtes du même côté de la table qu'elle pour trouver une solution à votre controverse. La prochaine fois, on parlera d'un autre principe qui sera de respecter les opinions de votre interlocuteur lorsque vous discutez avec lui pour développer une relation de confiance. C'est la base. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao !